Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est LE podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Peter et je suis accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Peter.
Ça va ?
Mais très bien.
Et nous accueillons Jonathan Rodriguez du studio de création Rodri Games. Bonjour Jonathan.
Bonjour Peter.
Et bonjour Cyrus.
Comment ça va ?
Ça va bien, je te remercie.
Alors Jonathan, donc tu es auteur de jeu, tu es également éditeur, tu t'auto-édites. Et tu es également, alors tu interviens en tant que prestataire, je crois, en illustration...
Graphiste.
Graphisme, c'est bien ça ?
Oui, totalement. J'interviens effectivement, notamment pour des entreprises comme Omega Games. Je fais les mises en page de leurs jeux. En fait.
Ok, très bien. Eh bien. Écoute, on va développer tout ça ensemble. Alors, avant d'attaquer l'interview, nous avons pour habitude de soumettre nos invités à un petit fil rouge. Donc, ce sont des questions courtes auxquelles on te propose de répondre, voilà, de façon assez concise. Et donc, nous allons attaquer ce fil rouge de quatre questions.
Donc, Jonathan, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ?
La pose d'ouvrier.
Ok, une raison particulière ?
J'aime beaucoup le contrôle que cela procure et c'est surtout qu'on peut prendre la place des autres et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Prendre la place avant que les autres arrivent.
Exactement.
Donc avec blocage.
Avec blocage, surtout avec blocage.
Ouais, t'as raison, c'est la meilleure. Et si tu étais un thème de jeu, lequel serais-tu ?
L'espace.
Ah, l'espace. Non, on en reparlera.
Oui, il y a des chances.
Ouais, il y a des chances. Si tu étais un élément de jeu ?
Un élément de jeu ?
Un élément de matériel de jeu.
Ah.
Peut-être pas d'ailleurs, après tout.
Oui.
Je sais pas.
Toi d'interpréter comme tu le sens.
Un insert pour bien ranger le jeu.
Ah.
Ouais.
Es-tu un maniaque ?
Un peu.
Es-tu un ludomaniaque ?
Totalement.
Et il s'assume.
Très bien. Et si tu étais un jeu ?
Je dirais Dice Forge.
Dice Forge.
Ouais.
Ok. Raison particulière aussi. Ouais. C'est ton jeu préféré ?
Alors c'est pas mon jeu préféré, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que il y a une modularité. Et un contexte ludique et tactile que j'aime beaucoup, le fait de changer ses faces, de pouvoir s'améliorer et de pouvoir en permanence en fait revenir en arrière ou évoluer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui.
Ok, très bien.
Très bien, ben merci. Alors, on va revenir sur qui tu es. Hein. Donc, Rodrigue Games, ça se prononce comment d'ailleurs ?
Rodrigue Games.
Rodrigue Games, ouais. Mais c'est un Z à la fin.
Hein. Oui.
Donc, voilà, c'est comme Proxy Jeux, c'est un X à la fin. Bon, si vous comprenez pas, faut écouter le débrief du jour zéro pour comprendre pourquoi. Donc, c'est beaucoup de choses hein, dans Rodrigue Games. Donc, il y a des prestations d'illustration, du design graphique, du marketing produit, la conception d'emballage visuel... du design de marque, du montage vidéo, du conseil en images aussi, et la publicité. Donc, c'est tout ça qu'on a. Donc, ça peut s'appeler le studio Rotary Games aussi.
Hein, on peut appeler ça comme ça, oui.
Voilà. Donc, c'est des services essentiellement pour les professionnels du jeu, et aussi une maison de création et d'édition de jeux. Hein, ça manquait un petit peu, hein, y avait pas assez de choses, hein, voilà. Et le premier jeu, c'est sans doute Cosmic Arena, c'est ça ?
Tout à fait, c'est mon tout premier jeu, oui.
D'accord. Et alors, c'est toi tout seul, Rodrigue Games, ou il y a d'autres personnes qui sont derrière hein ?
Alors non, je suis tout seul de A à Z, donc ça prend un peu de temps. C'est pour ça que je développe pas aussi vite que j'aimerais tous les jeux qui sont dans les tiroirs. Mais non, je suis tout seul à tout faire de A à Z.
D'accord.
Et du coup, ça, c'est ton métier ?
Alors, effectivement, mon travail, je suis illustrateur et designer graphique. C'est mon vrai métier à côté, parce que je suis salarié d'une entreprise.
Ok.
Et effectivement, ça aide un petit peu. Et j'ai travaillé 6 ans dans l'imprimerie. Donc, ça aide aussi pour toute la partie édition et surtout la gestion de projet.
Ok, d'accord. Donc t'as un emploi salarié à côté de tout ça ?
Oui.
Emploi salarié à 100% ?
100%, oui.
Ok. Donc ton activité au Rodrigue Games, c'est... ton loisir.
C'est les soirées. Les soirées, les week-ends, les festivals.
La nuit aussi. La nuit. Ça sert à rien la de
nuit.
Toute façon.
Bah, mon cerveau travaille tout seul la nuit, donc c'est bon. Je me réveille le matin avec des idées, j'écris sur un bout de carnet et puis ça passe.
D'accord. Et avant l'imprimerie, t'avais fait d'autres métiers qui sont en lien avec le jeu ou pas du tout ou...
Non, l'imprimerie, ça date un petit peu.
D'accord, ouais.
Donc, c'était vraiment au tout début de ma carrière, donc j'ai attaqué en 2019. 2009, et j'ai travaillé 6 ans là-bas, et après j'ai changé d'entreprise, donc ce qui m'a permis aussi de faire de la gestion de projet dans d'autres entreprises un peu plus grandes, pour des plus grands groupes en termes de communication et de marketing justement, et notamment du e-learning, donc ça m'a aidé un petit peu à... mais jamais dans le monde ludique avant.
D'accord, ouais, c'est ça, ouais. Aucun lien direct avec le monde ludique, et donc t'es un passionné de jeu certainement, et puis joueur probablement.
Totalement.
Et puis un jour t'as décidé de passer de l'autre côté, hein, on va dire, ouais, au miroir.
Totalement.
Voilà. Et donc t'as un slogan aussi à Rodri Games qu'on a vu, en tout cas, c'est des jeux qui font battre les cœurs au rythme des couleurs. Donc on sent que les couleurs sont importantes, certainement, dans tes jeux. Et pourquoi ce choix, pourquoi cette affinité pour les couleurs?
J'ai été dans l'industrie graphique, dans l'imprimerie. On appelle ça les arts graphiques, c'est pas pour rien, parce qu'on fait énormément de jeux de couleurs. On travaille avec des couleurs primaires, puis des couleurs secondaires, et c'est assez fascinant, je trouve, parce qu'avec ces 6 couleurs, on peut arriver à avoir une quantité de couleurs qui est colossale. Et c'est marrant de se dire qu'avec 6 pauvres petites couleurs, on peut en faire autant de millions. Et je trouve ça beau, en fait. Et c'est quelque chose qui ramène des choses simples, des cours d'art plastique, des choses qu'on apprend aux enfants. Et le fait de pouvoir jouer avec de différentes manières, parce que vous avez pu peut-être tester mes jeux, et au final, c'est une espèce de fil rouge. Et dans ce à venir, on jouera encore avec les couleurs, mais ce sera encore avec d'autres mécaniques. Et voilà. Et j'essaye de faire ce que je peux aussi pour rendre ça accessible aux daltoniens. Donc,
ouais.
C'est pas forcément simple.
Est-ce que ce fil rouge ne risque pas de devenir une contrainte finalement, parce que tu t'es fixé ça un petit peu comme ligne, quoi, mais
ouais,
finalement si jamais un jour tu veux t'en écarter un petit peu, qu'est-ce qui se passe?
C'est déjà le cas, j'ai un prototype qui est dans les tuyaux qui s'en écarte un petit peu.
Ah.
En soi, c'est pas très grave. C'est quelque chose que moi j'aime. J'ai environ 5 ou 6 jeux qui sont en attente où on a un système de couleurs encore dans l'acte principal. Qui avec des mécaniques que pour le moment je n'ai jamais vues, donc j'espère pouvoir les développer assez rapidement avant que quelqu'un tombe sur une idée que j'aurais pu avoir, donc ce serait chouette. Mais non, je pense pas que ce soit bloquant, au contraire, je pense que c'est motivant de se dire tiens, comment est-ce que je peux faire pour jouer encore avec sans que ce soit redondant avec ce que j'ai déjà fait.
Et comment tu t'en sors sur le terrain des daltoniens, parce que baser ces jeux sur les couleurs, ça paraît pas forcément très pertinent de ce point de vue.
Tout à fait. Alors c'est pas forcément facile. Moi je connais des daltoniens personnellement qui ont une certaine forme de daltonisme, hein, parce qu'il y en a tellement que ça devient compliqué à tout gérer. J'essaie de trouver des symboles ou des symboliques qui sont faciles à comprendre pour tout le monde. C'est pas toujours facile. Il y a des jeux qui sont dans les tuyaux qui vont demander beaucoup plus de travail et peut-être qu'ils seront pas adaptés aux daltoniens parce que ça rentre trop de contraintes. C'est quelque chose que j'essaie de faire. C'est pas quelque chose que je m'impose de faire. Si je peux le faire, je le fais avec grand plaisir. Parce que je trouve que c'est important que tout le monde puisse jouer et avoir la même vision des choses. Mais effectivement, c'est pas forcément simple. Il y a un color ad qui existe aujourd'hui, mais il est payant et tout le monde ne veut pas se payer les services d'un système payant. Donc voilà, je fais comme je peux.
C'est quoi un color ad?
C'est ce qu'on a dans certains types de jeux. Je sais pas si j'ai le droit de citer.
Oui, notamment chez Bombix. Mais chez Bombix, ils utilisent ça.
Notamment sur Sea Salt and Paper, on a des carrés qui sont pas forcément compréhensibles par tous non plus. Donc par exemple pour mon premier jeu Cosmic Arena, en fait c'est pas des symboles, c'est juste une simple addition. On fait les cartes de niveau 1, c'est des XA, une XA1 plus une XA2, ça donne une XB3. Et effectivement dans le schéma de couleurs, il y a 6 couleurs, donc ça fonctionne très bien.
D'accord.
Donc le 1 égale genre le jaune, le 2 égale le rouge et le 3 égale le orange, quoi. Dans cette logique-là.
Oui.
D'accord.
J'ai réussi à trouver un moment où les chiffres ne se chevauchent pas.
Ouais. Donc tu te fixes aussi comme contrainte d'essayer de trouver un système d'explicitation des couleurs pour ceux qui ont des difficultés, mais qui soit propre à chaque jeu. Pas de système qui serait commun à tous tes jeux, pour l'instant dans les tuyaux en tout cas.
En vrai, non, parce que je pense qu'il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres. Par exemple, là, pour les planètes, c'était facile parce que nommer une planète XA ou XB, c'est plutôt facile. C'est quelque chose qu'on connaît grâce à des grands films comme Star Wars ou des choses comme ça. Mon second jeu, Clac, c'est des symboles parce que j'ai pu les apposer directement sur les symboles magnétiques. Mais en soi, si j'avais mis des XA à 1 ou XA à 2, ça aurait été un peu bizarre peut-être. Et j'essaie de contextualiser les choses autant que possible. J'ai d'autres jeux où c'est carrément les personnages qui sont sur les cartes qui auront un design bien particulier. Donc voilà, j'essaie de créer des moyens mnémotechniques pour que en plus tu puisses faire une addition visuelle autant que possible.
D'accord.
Voilà.
Ouais, et de les intégrer au jeu en question pour pas que ça ça nuise trop au thème, si, exactement. Si on peut le résumer ainsi, quoi.
Il faut que tout soit en lien, sinon c'est pas logique.
Ok. Alors tu nous as parlé de pas mal de jeux là déjà, pas mal de jeux qui sont donc en, sortis, en développement, etc. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu plus en détail sur ton premier jeu et qui a dû peut-être être une aventure quelque part, hein, voilà, se lancer dans un premier jeu, j'imagine, ça doit pas être une sinécure. Combien de temps ça a pris, quelles étapes
voilà. Cosmic Arena, bah, ça m'a pris 2 ans et demi jusqu'au moment de la fabrication. Donc là, il est en vente depuis le mois de novembre. Donc fabrication, ça a été fini en juillet 2025. Donc le temps de recevoir les palettes, les envoyer au distributeur, tout ça, faire la préparer la sortie. Mais donc jusqu'à l'impression, ça m'a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi à partir du moment où je me suis vraiment dit, putain, c'est trop bien, ça va, c'est, faut que je fasse, faut que je l'avance là-dessus.
Mais ah oui, donc t'avais déjà l'idée.
J'avais déjà un peu des idées. J'aime beaucoup l'espace, mais vraiment, c'est un thème que j'aime beaucoup. La plupart de ma ludothèque, c'est quasiment que des jeux d'espace. Voilà, je suis fan de jeux comme ISS Vanguard, les Ganymède et autres. Voilà, et même s'il y a des mécaniques des fois que je j'aime pas trop, le fait d'être immergé dans un thème, moi, si un jeu me transporte dans un thème, je suis ok. Enfin, ça me va. Même si l'expérience de jeu est pas forcément ouf, si je suis embarqué, ça va.
D'accord.
Et donc ouais, j'avais déjà le thème, mais le jeu ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. C'était un jeu imbuvable, les premières versions, il était 10 fois trop long. Et en fait, moi, ma dynamique avec Cosmic Arena, c'était d'essayer de faire un jeu. J'adore les jeux experts, mais je suis un grand frustré genre j'ai perdu au bout de 4 heures à cause de 2 tours pourris. Et on peut pas en remettre une. Et ça, ça m'énerve un petit peu. J'ai des expériences avec Rising Sun qui sont assez pitoyables parce que je me suis fait bien avoir assez facilement ou bloqué. Il y a des tours entiers où je pouvais rien faire, donc c'était pas forcément agréable. Et donc moi, j'ai essayé de trouver un système de jeu où je puisse avoir une profondeur stratégique, mais quelque chose d'assez rapide, ce qui peut frustrer certaines personnes qui aiment bien dans la durée essayer de construire quelque chose. Mais ce qui est intéressant à Cosmic Arena, c'est qu'on peut faire des parties entre 20 et 30 minutes maintenant, et on peut, ben, si jamais ça va pas, on en remet une et
la
et
revanche, quoi.
Exactement, la revanche, la fameuse revanche.
Alors du coup, peut-être que tu peux en profiter pour nous parler de Cosmic Arena, nous expliquer comment ça se joue, le principe du jeu, etc.
Alors je vais essayer de te faire court parce que mes explications en ce moment elles sont un peu longues sur les salons. Cosmic Arena, on joue des Célestes qui est un peuple largement supérieur aux autres dans l'univers. C'est eux qui régissent tout ce qui existe, les trous noirs, la vie sur les planètes, etc. Et donc c'est un jeu d'affrontement stratégique à base de cartes pour 1 à 2 joueurs, parce qu'il y a un automa à l'intérieur qu'on peut jouer en solo, qui est un vrai défi d'ailleurs. Ça se joue à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Environ 30 minutes parce que les parties sont un tout petit peu plus longues, mais après, une fois qu'on connaît bien la mécanique, 20-30 minutes, c'est ok. C'est un jeu où on a 2 mécaniques phares. On va avoir une espèce de contre-deck building où on va avoir des cartes. À chaque fois qu'on va jouer des cartes, elles vont se retrouver sous une zone potentielle de l'adversaire. Donc s'il l'optimise, il va pouvoir récupérer les cartes pour s'en servir pour lui. Et on a une deuxième mécanique qui est la fusion de couleurs. D'où l'importance pour les daltoniens d'avoir un système simple et clair, parce que c'est une des mécaniques phares. On a des planètes de niveau 1 qui vont nous rapporter un certain nombre de points, qu'on va pouvoir fusionner pour avoir des planètes de niveau 2 qui vont nous rapporter davantage de points. Donc après, voilà, il y a une espèce de tempo à avoir où le but va être de créer un écart de points avec son adversaire pour essayer de dominer la partie et non pas juste de faire des petits pics par-ci par-là. Donc on a une stratégie à 2 à 3 tours à essayer de trouver, à essayer de construire une main de cartes sur une partie et essayer de faire en sorte que l'adversaire se développe pas trop. Avec ça, on peut rajouter des petits jetons créatures pour avoir des petits bonus qui sont non cumulables. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et techniquement, j'ai voulu faire en sorte que sur ce jeu, on puisse faire tout ce qu'on aimerait faire si on était un Céleste. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué. Si on veut faire un truc, normalement, tout a été pensé pour qu'on puisse le faire. Et se sortir de n'importe quel type de situation d'une façon bien ou moins bien.
Ouais, ça va coûter juste plus ou moins d'action et de temps pour le réaliser, mais effectivement, on arrive à sortir un peu de l'ornière en réfléchissant bien. Il y a toutes les options possibles effectivement dans le jeu. Ouais. On a pu y jouer ce matin avec Peter. Du coup, on est allé voir sur ton stand. Effectivement, il y a pas mal d'originalité, je trouve, dans le jeu. C'est un jeu d'affrontement, mais qui est pas du pur affrontement où on se bagarre créature contre créature. C'est plutôt on se fait un petit peu des coups fourrés pour essayer de tacler. Je vois ça un peu comme un jeu de développement. Il y a une partie de développement. Puis en fait, tu peux aller un peu contrecarrer le développement de l'adversaire. Et alors nous, on a pas entrevu toutes les strates stratégiques dont tu nous as parlé. Effectivement, on les a compris sur la fin de la partie. Après, tu nous as expliqué, on était en cours de partie, tu nous as expliqué des trucs. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends. On n'a pas forcément très bien joué. C'est un jeu dans lequel il va falloir s'investir un peu aussi pour pouvoir aller capter ces différentes strates.
Et dans l'idée, ouais, Cosmic Arena, sur leur première partie, on passe à côté déjà de la zone potentielle. qui est vraiment très importante, mais sur une première partie, c'est très contre-intuitif.
Qui est un genre de défausse finalement, mais dans lequel on va pouvoir aller piocher aussi. Donc on a la carte du dessus qui est disponible, et les cartes du dessous, on a le droit d'aller voir regarder ce qu'il y a, hein, donc on peut aller un peu creuser dedans pour aller récupérer des cartes.
Oui. Et c'est vrai qu'à partir de la deuxième partie, on fait totalement l'inverse, donc on l'optimise trop et on oublie le reste. Donc on se fait encore tacler. Et en gros, à partir de la troisième ou quatrième partie, c'est à partir de ce moment-là où on va commencer à se dire « Ok, maintenant je connais les cartes, je connais le système de jeu, je peux me permettre de faire certaines choses ou d'essayer certains types de stratégies qui sont différentes de ce que je peux faire d'habitude. » Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que qu'on soit agressif, un joueur agressif ou un joueur passif, on peut quand même arriver à toujours avoir quelque chose à faire, même si attaquer coûtera toujours plus cher que de créer.
Très bien. Et le processus de création de ce jeu, il est passé par quelles étapes ? Est-ce que t'es passé par l'étape proto ? Alors comme tu sais un peu tout faire, hein, j'ai envie de dire, pour aller jusqu'au bout du jeu, est-ce que t'as commencé par découper des petites cartes ? T'as été présenter ton proto dans des salons ? T'as été démarcher des gens et...
Oui, alors
comment ça s'est passé ?
Oui, ça a commencé par du stylo sur des bouts de papier. Au début, en plus, c'était des formats tarot, donc autant dire que le jeu prenait une place incroyable sur le, les cartes étaient jolies, hein. Enfin, aurait pu être joli, mais ça prenait vraiment beaucoup trop de place. Donc, il a fallu réduire le format. Et après, le jeu était un peu différent dans sa mécanique. Il se jouait en deux actes. Il fallait préparer d'abord l'acte 2, donc ça durait un temps infernal. J'avais même carrément inventé un système sans langage, avec que des pictogrammes. Donc, autant dire que c'était injouable. Fallait apprendre un langage pour pouvoir jouer, quoi.
Que de l'icono, c'est ça?
Ouais, que de l'icono. Ouais. Et c'était infernal, parce qu'en fait c'était même de l'icono presque littéral avec les symboles bout à bout, ça marchait bien, mais en fait il fallait connaître le truc. Ouais, c'était un rêve métro. Ça aurait pu presque être un jeu avec des hiéroglyphes, ça aurait peut-être été même encore plus thématique Stargate, je sais pas, mais non, effectivement. Et oui, au début j'ai fait ça avec des petites cartes, des petits crayons, des petites feuilles d'aide, des retours, des choses comme ça. Ça a évolué au fur et à mesure. Puis après j'ai système sleeve, hein. Je prenais des cartes un peu rigides, je mettais mes petits bouts de papier dedans pour que ça ait un peu de main, que ce soit un peu moins sale. Et puis après j'ai essayé de trouver un éditeur quand ça a commencé à être vraiment cadré. J'étais toujours en phase de modification parce que il y a toujours des petites cartes qui sont un petit peu compliquées à gérer. Notamment les cartes. Au début, j'avais essayé de l'équilibrer parfaitement, genre une ressource pour une ressource, des choses comme ça. Ça en faisait un jeu plat, donc ce qui fait que parfois on peut dénoter une espèce de déséquilibre, mais qui sert l'intérêt du jeu. Donc c'est vraiment, il y a eu vraiment une recherche. Au début, il y a eu une recherche d'équilibrage parce que c'est tout le monde te dit, il faut que ce soit hyper équilibré, au millimètre près, à la case près. Et en fait, en cherchant et en faisant mes propres expériences, je me suis rendu compte que c'était pas la solution. Que si t'as un jeu hyper équilibré, en fait t'as un jeu hyper prévisible, et au final il y avait pas ce petit twist de se dire ok, on est des dieux, en fait on est supérieur à tous les autres, on peut se permettre ce qu'on veut, donc essayons de créer un petit déséquilibre. Et en fait, en créant des petits équilibres à droite à gauche, j'ai fini par affiner et dire tiens, ce déséquilibre là il marche vachement bien, il a un intérêt, et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont pas très gros joueurs qui jouent à Cosmic Arena et qui s'éclatent quand même et qui arrivent à toujours faire un truc à leur tour, qui sont jamais bloqués. Et c'est moi ce que je voulais vraiment pour ce jeu. Et j'ai cherché un éditeur, le thème de l'espace, le thème abstrait, on m'a dit non, bon, c'est un peu niche, c'est pas très intéressant, machin. Et à force de se prendre des refus et d'aller en festival et de faire tester à des gens qui aimaient bien, je me suis dit, il y a quand même un truc. Alors je me suis dit, je vais essayer, je vais faire un crowdfunding. J'ai été sur Ulule, j'ai créé ma page. Donc, bah, comme vous savez, avec mon bagage, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti.
Page web, j'imagine que tu sais faire.
Voilà. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait des vidéos règles. J'ai mis un peu de 3D. Enfin, voilà, j'ai fait un peu tout ce que je savais faire. Et le crowdfunding a super bien marché. Et là, je me suis, on peut plus reculer, quoi. Donc,
Mais comment t'expliques le succès du crowdfunding, du coup? T'avais demandé combien?
Au départ.
T'as fait marcher un réseau?
Ouais. En fait, non, c'était festival surtout. Il y avait beaucoup de proches qui ont beaucoup essayé, qui en ont parlé à d'autres. Et la grande force de Cosmic Arena pour avoir le score, c'est qu'il y a un mode solo qui est vraiment, j'ai mis un mode solo pour dire, il y a un mode solo, venez, quoi. Il y a vraiment un mode solo qui a été réfléchi avec un automa. Il y a même deux modes solo, un mode automa et un mode training. Et c'est vrai que la case des joueurs solo, ils sont pas trop mis de côté parce qu'il y a des jeux solo qui sortent, mais c'est vrai que des jeux qui font les deux, c'est assez difficile à trouver des jeux qui font les deux plutôt de façon intéressante. Il y a souvent des modes solo qui sont des modes un peu approximatifs pour dire, bah voilà, il y a un mode solo, venez au cas où, vous pouvez jouer tout seul. Mais je pense que ça, le solo, ça a aidé un peu. J'avais demandé, il me fallait 5 500 € pour arriver à la limite. On a passé les 6 700, je crois. Donc, c'était plutôt une bonne surprise pour moi. Ça m'a permis, ben, du coup, de lancer une première impression et puis, de faire toutes les erreurs d'une première édition, quoi, forcément. Ça a du pas genre. Été facile. Du genre, demander des samples, mais sans, enfin, des exemplaires à blanc, on appelle ça, enfin, des pré-prototypes. Sans donner toutes les directives, sans donner un cahier des charges bien précis à l'imprimeur. Et le problème, c'est que vu que c'est imprimé en Chine, eux, ils font exactement ce qu'on leur demande. Et c'est très bien, hein, ils font ça très très bien. Mais si on précise pas certaines choses, c'est pas fait. Et c'est tout à fait normal en même temps. Donc maintenant, voilà, il y a des petites erreurs comme ça. Il y a des petites coquilles par-ci par-là parce que forcément, quand on fait tout seul, on a la tête un peu partout. Il y a eu des relectures, mais avec des gens qui font pas forcément des jeux, enfin qui jouent pas forcément, donc c'est pas forcément facile pour eux de se représenter les choses. Donc il y a eu pas mal de petites erreurs d'édition, mais ça m'a bien formé et clairement c'était pas facile, mais c'était une super bonne expérience, ça c'est sûr. Hein.
Et t'as pu refaire un tirage derrière du coup?
Pas encore, non. J'ai 1000 exemplaires.
Du coup, t'as produit 1000 exemplaires, oui. T'as servi tes backers, tes contributeurs. Et t'avais encore un stock derrière, quoi.
Oui, alors en fait, il y a eu 270 précommandes. Donc j'ai servi les 270 précommandes. Et j'ai réussi dans la foulée après, derrière, à trouver un distributeur. Je l'avais envoyé à pas mal de distributeurs, beaucoup qui répondaient pas trop. Et finalement, Jeu Délire a décidé de... Le jeu leur a plu quand ils l'ont essayé. Donc ils m'ont dit, nous c'est ok, viens avec nous. Donc on a fait un contrat de distribution classique. Et je leur ai envoyé une première fournée. Et le jeu chez eux a plutôt bien marché, donc je suis assez content pour un premier jeu, pour un inconnu, c'est plutôt engageant, quoi. Mmh. J'ai eu des bons retours de professionnels du milieu qui l'ont testé, ou même des sites internet qui l'ont acheté de leur côté sans que je leur envoie de boîte, qui ont testé, qui m'ont mis des bonnes notes, donc c'est super engageant, ça touche parce que, même si il y a sûrement des défauts pour certains, il est sorti de nulle part et.
Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont revenus te voir après en disant finalement parce que comme ils avaient connaissance de ton jeu, je sais pas s'ils portaient déjà le nom quand tu es allé leur présenter, mais en tout cas ils ont dû se rendre compte que finalement le jeu qu'ils avaient refusé, il a été jusqu'au bout, il est distribué, on peut le trouver facilement en boutique ou avec Jeux Délire.
Dans toutes les boutiques qui sont en lien avec Jeux Délire. D'accord. Après pour les particuliers, il y a mon site internet au pire si besoin, mais c'est vrai que pour les boutiques normalement ils peuvent tous. J'ai eu un bon retour parce que j'étais à Vichy l'an dernier et il y a eu pas mal de boutiques parce que c'est salon pro. Et j'avais eu pas mal de très bons retours de boutiques qui en ont recommandé et tout, donc c'est chouette, quoi.
D'accord, donc l'expérience de l'auto-édition validée finalement.
Pour moi, oui.
C'est un mal pour un bien d'avoir été refusé par les éditeurs.
Exactement,
peut-être.
Exactement, parce que finalement j'ai pu faire comme je voulais, ça plaît quand même, et voilà, en fait c'est ça s'est fait. On m'aurait dit tout ce qu'il y avait à faire avant de le faire, je l'aurais pas fait, parce qu'il y a trop de choses à penser entre les écotaxes, entre les douanes, entre.
Oui, parce que tu as choisi la fabrication en Chine, c'est peut-être pas le plus simple.
Non.
C'est peut-être le moins cher, mais peut-être pas le plus simple.
Non, c'est pas le plus simple.
Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour aller sur la Chine?
Alors, en fait, moi, j'aurais aimé pouvoir faire 100% en France. Mais vraiment 100%. Parce que l'imprimerie, c'est un métier de cœur pour moi. Mais le problème, c'est que les qualités d'impression, alors, en termes de flyers, d'affiches et tout, l'imprimerie française, c'est très bien pour certains types de produits. Mais quand on veut passer sur des produits type des boîtes cloches, ça devient très compliqué et la qualité d'impression peut être un peu mise à mal. Alors je sais pas si c'est un problème de machine, si c'est un problème de personnel, je ne sais pas. Et en termes de main d'œuvre, après tout ce qu'il y a, les assemblages et tout, en France, on est hors de prix. À partir du moment où t'as des jetons, où t'as de la mise en boîte un peu technique, ça devient vite très très cher. On fait fois X. Enfin, j'ai plus les fois combien en tête, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Après, j'ai cherché au niveau de l'Europe. Le problème, c'est que en Europe, c'est moins cher effectivement, mais c'est moins cher que la France, pas tant. Mais le transport coûte cher et les quantités, ils demandent beaucoup plus. Donc ça, c'est un deuxième problème. Parce que sur un premier tirage, moi, je pouvais pas me permettre de faire 5000 impressions parce que j'avais 270 précommandes, mais j'en ai pas 1200, quoi. Et puis, le jeu est 100% français, donc ça veut dire aussi que je peux pas le lancer à l'international, rien du tout. Et du coup, par dépit, finalement, j'ai demandé des devis en Chine à une quinzaine ou une vingtaine d'imprimeurs chinois. Ah, j'ai ratissé large. Même en France, j'ai fait une demande de 40 devis.
Ah ouais.
Parce que je voulais vraiment faire en France, mais voilà, il y en a aucun. Au-delà des prix, il y en avait toujours un qui, il y a un truc qu'il savait pas faire. Okay. Boîte cloche, on fait pas. Les cartes comme ça, on fait. Enfin, les cartes comme ça, on fait pas. Ou les arrondis, on fait pas. Ou les découpes de jetons aussi petits, on fait pas. Et ou alors le recto verso de vos jetons, ça va pas le faire parce que nous, on n'arrivera pas. En toute honnêteté, on n'arrivera pas à caler le recto verso parfaitement. Et ça, c'est quelque chose que m'avait dit mon prototypeur de l'époque. J'avais fait faire en Belgique. J'avais reçu mes prototypes et les jetons étaient décentrés et je suis un peu perfectionniste donc ça m'énerve et je lui dis mais les jetons ils sont pas centrés, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit mais nulle part dans le monde vous aurez quelqu'un qui va vous centrer vos jetons, c'est impossible. Je dis bah ok, bah je vais chercher quand même. Et en fait les chinois ils ont eu aucun problème. J'aurais aimé pouvoir faire ça en France ou au moins en Europe, mais clairement même une fois que tu fais la douane, que tu fais le rapatriement, ça reste bien moins cher que d'imprimer chez nous. C'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie parce que pour moi, les arts graphiques en France, c'était vraiment un savoir-faire il y a 20 ans en arrière. Et là, aujourd'hui, avec le tournant du jeu de société, surtout français, on a énormément de jeux de société en France, d'auteurs, d'éditeurs qui sont français. Je trouve que c'est une vraie tragédie qu'il y ait personne qui ait pris le truc en main en disant, OK, les Chinois, c'est bien, bah, nous, on va faire mieux. Et malgré ça, ben voilà, il y en a des taxes, on a tout ça, mais voilà, c'était un choix par dépit. Au final, je regrette pas parce que vraiment, l'impression est de très bonne qualité, c'est durable, même les jeux que je protège pas avec des protège-cartes, ils durent même pendant des salons, les boîtes s'abîment pas trop vite, enfin vraiment, étant connaisseur de l'imprimerie, je peux que être content de ce qu'ils ont fait parce qu'au prix qu'ils vous le prennent, alors après j'essaie quand même de trouver des entreprises qui emploient pas d'enfants, qui prouvent qu'ils ont des certaines certifications parce que il y a quand même un minimum d'éthique à avoir en tant qu'humain, mais c'est vrai que bah voilà, je peux tellement rien leur reprocher que je peux pas dire aujourd'hui c'était pas terrible, j'y retournerai pas. J'ai pour mon second jeu, j'ai approché une autre entreprise chinoise qu'on m'a conseillé, qui m'a envoyé des prototypes. Les prototypes, c'est les versions finales du jeu, quoi. Ils m'ont fait des prototypes à un prix battant toute concurrence, envoyés en 2 semaines, et ils sont impeccables. Ils sont sous plastique. Enfin, je pourrais même presque vendre cela, quoi. Bon, c'est pas mon objectif non plus, mais
ceux qu'il y a sur le salon là qu'on ouais. a vu là, c'est des prototypes.
C'est
des
prototypes encore.
D'accord.
Il manque les codes-barres et la vidéo règle que j'ai faite, que j'ai terminée la semaine dernière.
D'accord. Ok. On a repéré quelques fautes d'orthographe oui. Par-ci par-là, mais
on a vu aussi. Ça, et,
on peut là, pas leur en vouloir. Voilà.
Pour le coup, on va là pour claque, ce sera encore plus cadré à ce niveau-là parce que je sais que ça peut être un problème.
Il y a quand même des projets qui se montent en France de, enfin, il y a des, autour de la sphère bleu-orange, je sais pas si t'as entendu, Timothée Leroy.
J'ai entendu ça, ouais, mais c'est très récent, non?
Ouais, bah, ça date d'il y a un an maintenant.
Oui,
bah, le lancement, attention, le lancement et les annonces, on va dire. Et puis, il y avait quelqu'un qu'on avait reçu à nos micros, je crois que c'était Drew Elana qui avait dû le recevoir. Qui faisait de la mise en relation d'éditeurs avec différentes entreprises, différentes usines, pour pouvoir dire bon, ok,
moi.
Je fais les boîtes cloches. Toi aussi, t'étais pas participé à la.
C'est moi qui l'ai reçu. Ouais. C'est moi qui l'ai interviewé avec je ne sais plus, mais effectivement, et ça et c'était un gars de Lyon, enfin de la région lyonnaise en tout cas, et c'est je me souviens plus, mais une sorte de maître d'œuvre du monde ludique.
Ouais.
Et en Ludo, je ne sais plus comment.
Attends,
enfin, c'est pas son nom, hein. Et oui, effectivement, on l'avait interviewé. Voilà, c'était Quentin Vinoc de Ludotopia, effectivement. Donc non, ça te parle pas plus que ça.
Ludotopia, si j'avais regardé, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à chercher que je trouvais pas d'éditeur, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je peux pas me renseigner à droite à gauche pour me faire assister, parce que ben j'avais pas les moyens clairement. En auto-édition, on fait aussi ça parce que ben on n'a pas de moyens, donc comme le crowdfunding. Et je m'étais un peu renseigné, mais en fait, je me suis dit, bah vu toute la gestion de projet que j'ai eu au travers de mes expériences pro. En soi, demander des devis, faire ma propre expérience de tout ça, c'était pas quelque chose de compliqué. Donc je me suis dit, bah essaye, je verrai ce que ça donne. Les études de coût, je les avais faites avant le crowdfunding pour pouvoir proposer un prix honnête aux gens aussi. Et c'est vrai que ça s'est fait, mais voilà, pour faire des codes-barres, c'est compliqué. Pour faire un tas de trucs, c'est très compliqué. Il y a plein de choses très compliquées. On se rend pas compte tout ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que si on m'avait dit tout ce qu'il y avait à faire, je pense que j'aurais ralenti ou continué de chercher un éditeur.
Et alors, pour le deuxième jeu, on en vient à donc Clac,
oui.
Dont t'as parlé. Donc, retour d'expérience du premier jeu, de Cosmic Arena.
Oui.
Quelles vont être les différences dans la conception, la production et la distribution peut-être de ce jeu par rapport au premier?
Alors, je vais pas faire 50 prototypes mis à jour à chaque fois. Donc déjà, ça, je vais gagner un temps fou. Et après, il y a aussi l'aspect je connais les acteurs locaux, j'ai le jargon technique maintenant en anglais, on peut discuter d'un tas de trucs. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées, je sais ce que je dois faire, donc j'ai une espèce de to-do list à pas oublier, générer le code barre, faire les déclarations nécessaires auprès de tous les organismes qu'il faut pour les écotaxes et autres. La douane, je vois comment ça se passe, le rapatriement aussi, j'ai trouvé un très bon forwarder qui fait très très bien son travail. J'ai déjà un vivier, on va dire, de contacts, et le fait d'avoir maintenant ma société fait que je peux plus facilement aller vers les gens. J'ai un tout petit peu plus de légitimité à le faire, parce que j'estimais que j'avais aucune légitimité à être auto-éditeur, me dire éditeur pour éditer mes propres jeux. Donc il y a un statut comme ça qui évolue petit à petit, et je me dis voilà, maintenant il y a des gens que je croise, que je pensais même pas être accessible avant. Donc ça me permet d'avoir des contacts et de pouvoir discuter avec un tel, et puis avoir des rendez-vous, et puis avoir un tout petit peu plus de poids à me dire ok, j'ai sorti un jeu qui plaît. Quand je vois des articles qui parlent de mon jeu, qui sont super cool, c'est trop bien quoi. Enfin, ça fait chaud au cœur. Et en fait, ces choses-là, tu dis ouais, mais en fait, c'est ok. Et je vais continuer parce que moi, je m'éclate à faire ça. Et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin dans les mécaniques. J'ai envie de sortir des trucs que les gens connaissent pas. J'ai envie de sortir de l'éternel jeu de pli en te disant ah, c'est pas un jeu de pli, mais si, c'est un jeu de pli. Donc j'ai envie de sortir de ces carcans qu'on voit beaucoup trop souvent et qui inondent le monde du jeu. Mais je vais continuer de faire ce que j'aime faire, et avec autant de d'amour possible. Je vais pas faire les jeux parce que faut que je me dépêche à les faire. Clac, c'est un type de jeu par exemple qui s'éloigne un petit peu de ce que moi j'aime, qui est les jeux experts et les jeux initiés. C'est un jeu très tout public, voire même familial dans une certaine mesure. Mais j'ai essayé d'y apporter une petite touche un petit peu plus technique. Quand on rajoute les cartes supplémentaires, on se retrouve avec un jeu qui est un petit peu plus tricky, où on va pouvoir vraiment réfléchir un peu plus et être encore plus désagréable avec les autres. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est quelque chose que j'aime faire, avoir un jeu multiniveau. Mais j'ai fait ce jeu-là parce que il joue avec les couleurs, que j'aime bien le concept. S'il se joue facilement, en 5-10 minutes, c'est réglé. On est éloigné de ce que j'aime, mais j'aime bien aussi y jouer. Donc il faut des petits jeux ponctués comme ça. Mon objectif, c'est d'essayer forcément de me faire connaître un peu plus, pour que quand les jeux que j'ai en tête, qui ont des mécaniques que je n'ai jamais vues, sortent, les gens se disent « Ah, c'est lui, ok, ça va m'intéresser, je vais regarder ». Parce que mon but, c'est pas que tout le monde me connaisse, mais juste que de pouvoir toucher la bonne cible pour que des gens qui ont envie de jeux que je fais, ils trouvent preneur quoi.
Donc a priori aussi auto-édition pour Clac. Et la distribution, Jeu Délire aussi, te suis là-dessus, non?
Alors ils auraient aimé, mais en fait dans mon objectif de rayonnement, j'ai un autre distributeur qui est intéressé. Donc pour le moment pas de. Enfin.
D'accord.
J'aurai un distributeur, ça c'est certain, mais voilà, faut que je choisisse.
Tu peux pas nous dire lequel, c'est ça? C'est pas fait encore.
C'est pas signé.
C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà.
Très bien. Et donc tu disais que t'avais d'autres projets aussi dans les cartons.
Oui.
Il y a un jeu de pose d'ouvrier qui va sortir alors.
Oh là.
Un jeu expert de pose d'ouvrier dans l'espace.
Oh là.
Moi si je fais la synthèse de tout ce que tu nous as dit, c'est ça qui devrait arriver, hein.
Dans l'immédiat, non. Ce que je disais, c'est que l'idée, c'est de préparer un peu une image de jeu un peu différent, pour essayer justement d'appâter un peu plus de monde, pour justement être prêt quand les jeux les plus qui me tiennent le plus à cœur vont sortir. Effectivement, sans aller jusque dans l'espace, j'ai un jeu de pose d'ouvrier sur lequel je travaille avec des disques tournants, ce qui est basé sur la couleur encore et toujours. Placement de tuiles et pose d'ouvrier qui devrait être en test à partir de la fin d'année là, qui est vraiment intéressant pour moi. Et effectivement, en fait, l'univers Cosmic Arena, moi, j'ai envie de le prolonger un peu plus, et je travaille actuellement aussi. J'ai pas mis en test encore, mais je travaille un peu sur une version un peu expert dans l'univers de Cosmic Arena. On a parlé un petit peu du lore de Cosmic Arena, et dans l'idée, ce serait en amont des Célestes, ce serait qui fabrique les connaissances des Célestes. Et donc ce serait Cosmic Era, et ce serait l'origine de la Forge des Connaissances.
Une sorte de spin-off, si on était dans les séries.
Ou un préquel plutôt.
Un
petit préquel avec un plateau évolutif expert, en gardant cette mécanique de si j'attaque quelqu'un, il récupère la carte. Mais avoir un système de d'énergie supérieure qui vient avec de la pose d'ouvrier, qui vient créer des choses et qui rapporte des points. Et là, par contre, ce serait un jeu 1 à 5 joueurs normalement. expert, donc au moins 1h30, 2 heures de partie, quoi. Mmh. Et vraiment dans l'univers.
Mais pas d'extension pour Cosmic Arena, a priori, c'est ça?
A priori, non. Je suis pas trop pour les extensions. Moi, j'aime pas trop toute cette hype booster. On te sort un jeu à 20€, puis en fait l'année d'après, on te dit bah tiens, sors encore 12€ parce qu'il y a un booster, et à la fin, t'as un jeu qui t'a coûté 50€ pour 10 cartes de plus. C'est ma philosophie. Je trouve ça un petit peu injuste parce qu'ils savaient très bien au départ qu'ils allaient faire des cartes. Autant les mettre dès le départ et mettre peut-être 2€ de plus sur la boîte. C'est un problème marketing, mais ça c'est autre chose. C'est quelque chose que moi j'aime pas trop. Si demain il y a une extension Cosmic Arena, il pourrait y en avoir une, parce qu'il y a pas mal de remontées de la communauté, de gens qui inventent des trucs, parce que bah Cosmic Arena, je l'ai voulu aussi évolutif et que les gens se l'approprient. Et au final, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sortent des trucs. Tiens, ce serait sympa d'avoir ça. Ah ouais, c'est pas bête. Donc peut-être dans les années à venir faire une grosse extension, pas sous forme de booster, mais une add-on vraiment peut-être un peu plus punitive ou autre chose, un autre type de carte, mais c'est pas impossible, c'est pas dans mes priorités, parce que clairement il y a énormément de choses déjà dans la boîte de Cosmic Arena pour faire beaucoup de parties. Donc c'est vrai que
et le fait de t'associer avec d'autres pour faire du co-autorat, ou ne serait-ce qu'un illustrateur ou une illustratrice pour un petit peu décupler la force de travail pour les autres projets, non, c'est quelque chose que t'envisages ou...
Je pourrais l'envisager totalement, le jour où j'aurai un peu de trésorerie. Pour le moment, c'est toujours pas le cas. Mais oui, effectivement, moi j'aimerais beaucoup à terme... En fait, tout seul, j'avance pas vite, ça c'est certain. Donc j'aimerais effectivement pouvoir travailler avec, pas forcément en autorat, mais avec d'autres artistes, effectivement, pour déléguer un petit peu cette partie graphique, et pouvoir avancer sur le fond des problèmes plutôt que sur la forme. Mais là aujourd'hui, tant que j'ai pas des jeux qui fonctionnent, je peux pas payer des illustrateurs. Donc pour le moment, je fais ce que je peux tout seul. Je suis multi-style, donc je m'adapte un petit peu en fonction de mon besoin. J'ai des prochains jeux là qui vont arriver, qui vont être sous forme de graphiquement, ça va être du comics américain. J'essaie de varier un peu les styles pour aussi montrer, parce que mine de rien, mes jeux c'est aussi une espèce de vitrine de ce que je sais faire. Finalement, si je peux un peu varier les styles, déjà moi ça me fait plaisir. Et puis
c'est ton book, tu le fais sous forme de jeu de société.
Ouais,
c'est
j'avoue, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Et sinon, en autre possibilité, peut-être, t'envisages pas de te mettre à temps partiel, essayer de prendre peut-être un peu plus de risques, c'est vrai, mais pour t'engager peut-être plus dans le milieu du jeu, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, trop risqué?
J'aimerais beaucoup pas forcément en vivre, mais effectivement réduire mon temps de travail actuel pour pouvoir faire plus dans le jeu. Aujourd'hui, je peux pas le faire, c'est pas possible. Mais je sais pas, peut-être que dans un an ou deux ans, on entendra fortement parler de Clack et que d'un coup, je vais pouvoir me dire, ok, en fait, faut que j'accélère cette activité parce que ça plaît, parce que ça fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai vendu tant de jeux, donc je peux me permettre de réduire mon temps de travail pour, gagner un peu moins, mais pouvoir me dire, c'est bon, je peux faire plus en termes de jeu et accélérer un petit peu cette machine, parce qu'effectivement, si je pouvais bosser les journées en plus des soirées, j'irais sûrement beaucoup plus vite. Mais là, c'est pas trop le cas, surtout quand tu fais tous les vidéos règles, ça prend du temps, faut monter dans le studio dans le bureau, ça prend toujours du temps, puis tu te rends compte que t'as loupé une prise, donc tu fais quoi? T'avais rangé le set, tu le ressors. Tu ressors tout, les fonds verts, les machins, tu remets tout en place et tu recommences. Donc oui, j'aimerais beaucoup à terme pouvoir en vivre. Je sais que c'est extrêmement compliqué d'en vivre. Après, ce qu'il y a d'avantageux, c'est que je suis pas qu'un auteur finalement. Donc demain, si j'ai des jeux, je suis pas qu'un éditeur, pardon, si j'ai des jeux qui plaisent à un éditeur et qui me dit tiens, ça c'est vachement bien, j'aimerais bien m'en occuper et le développer. Bah ok. Je peux pas tout faire de toute façon, donc il y a un moment, moi je suis totalement ouvert au fait que je vais pas aller chercher un éditeur par contre, parce que j'ai pas de temps à perdre pour ça. Je préfère perdre mon temps à trouver un distributeur qui va me dire ok, ce jeu il est vachement bien, je le veux dans mon catalogue, viens me voir quand il est terminé, et à ce moment-là j'avance. Mais chercher un éditeur, non. Après, dans une discussion, tiens, on cherche un jeu, un tel, j'en ai un, oui, ça c'est totalement possible, je serais totalement prêt à déléguer et avoir juste de l'autorat sur des jeux.
Ah bien. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Jonathan, et on te souhaite qu'on entende parler de toi à nouveau à l'avenir.
Tout à fait.
Merci.
Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter, un point
Non, rien de spécial, à part un immense merci à vous de cette interview. C'était la première fois que je me fais interviewer, donc c'est cool que ce soit un proxy jeu.
Eh ben, c'est un honneur pour nous, je crois aussi, alors.
Voilà. Merci à toi pour ta participation.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien!
Je sais pas si j'ai le droit d'en parler là, mais au pire, vous coupez. Je savais plus si c'était bien joué ou jouer bien, donc j'ai attendu le début du mot pour...